Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo sur les ondes de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Ben et Aurélie du refuge de la Tour de Borne. Bonjour.
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 Alors vous êtes là pour nous parler de la programmation estivale et des animations qui auront lieu au refuge de la Tour de Borne, principalement au mois d'août, mais il y aura aussi des événements en juillet, on reviendra dessus. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter la Tour de Borne et son refuge ?
Alors le refuge de la Tour de Borne, c'est un lieu qui a été racheté il y a plus de 30 ans par un groupe de copropriétaires, environ 550 copropriétaires, qui se sont alliés tous ensemble pour acheter ce lieu pour qu'il ne soit pas utilisé comme un terrain de chasse ou un terrain de jeu de 4x4. Et il a été, donc il y avait une maison, il y a 137 hectares de terrain. La maison a été rénovée au fil des ans. Et très vite, c'est devenu un lieu d'accueil et donc un refuge. Aujourd'hui, c'est même deux refuges, puisqu'il y a un petit refuge qui reste ouvert en permanence, sauf au mois de juin, parce qu'il y a la bergère qui va arriver pour les transhumances. Et un plus grand refuge, où là, on a absolument tout confort. Et ce grand refuge, en été, il est gardé. C'est-à-dire qu'il y a des gardiens, gardiennes, qui se succèdent toutes les semaines et qui font de l'accueil et la restauration. Ce qui n'est pas le lieu le reste de l'année, qui est en gestion libre. Les gens prennent la clé à borne.
C'est les gens qui vont faire des randonnées, qui s'inscrivent peut-être quelque part.
Voilà, alors il faut s'inscrire sur le site, il y a l'adresse pour réserver, que ça soit en gestion libre ou pendant l'été. Et on réserve ce qu'on veut, en fait, pour l'été, un repas au plus, ou un pique-nique, ou juste le repas de midi, ou une nuit, etc. Enfin, tout le détail de ce qui est possible est inscrit dans le site. On peut aussi juste aller boire un verre. Et effectivement, les personnes qui vont au refuge, on a toutes sortes de personnes, du gens qui veulent juste se mettre dans nos jolis fauteuils devant la montagne au soleil, et puis des randonneurs qui font tout un tour et qui vont passer une nuit au refuge dans un parcours d'itinérance de refuge en refuge.
Pour le situer un tout petit peu géographiquement, ce refuge de la Tour de Borne, on est du côté de Glandage, si je ne m'abuse.
Alors, c'est sur la commune de Glandage et c'est en face du Jocou. Et on peut donc y accéder par le col du Menet, par Borne, en passant au niveau des sucettes de Borne, ce qui est aussi bien agréable de voir ce site. Ou bien de l'autre côté, par la Croix-Haute, le col de Grimone, etc. Donc, il y a plusieurs accès possibles au refuge. Et aussi, on peut y accéder par un autre, par le côté du Plény. Donc, il y a vraiment une grande variété d'accès. Mais en tout cas, l'accès est pédestre, il faut le rappeler. Sauf pour les personnes qui ont des difficultés motrices, qui peuvent nous solliciter et qu'on peut. On travaille maintenant avec la Buenaventure,
oui,
qui peut les accompagner en joëlette. Et puis aussi, éventuellement, nous, on peut utiliser notre 4x4 pour les personnes qui ne peuvent pas monter
ou les personnes
à
en
pied.
Mobilité réduite.
Voilà.
Et donc, à ce refuge de la Tour de Borne, il y a toute une série d'animations qui est prévue pour cet été. Je crois que c'est là où tu interviens, Aurélie, en fait, hein, parce que c'est toi que j'ai eu en contact pour me parler de cette programmation qui a l'air assez riche quand même, hein. Assez riche et assez diversifié, entre le 4 et le 14 août.
Ouais. Alors moi, je vais avoir l'honneur cette année de garder le refuge pendant 2 semaines. Et du coup, j'avais un peu carte blanche pour proposer des animations sur ces 2 semaines avec la confiance du collectif de la Tour. Et du coup, avec les autres gardiens-gardiennes, il y avait plein de talents et de choses à partager. Je suis allée chercher aussi un peu des personnes à l'extérieur pour proposer cette programmation avec quasiment une animation par jour, toute à prix libre et avec de quoi intéresser différentes sensibilités. Voilà. Est-ce
que... Ça fait longtemps que tu connaissais ce refuge de la Tour de Borne ?
Alors moi, j'ai découvert le refuge de la Tour de Borne, je pense, il y a 3 ans. Je cherchais un endroit où aller fêter les 30 ans de mon amoureux avec des copains-copines. Et je suis tombée un peu par hasard sur ce refuge. Donc j'y ai organisé un week-end, on était une vingtaine. Et j'ai vraiment été charmée par le lieu. Et j'ai eu très envie d'y retourner. Et moi, professionnellement, j'anime des ateliers d'écologie sensible. Il y a d'ailleurs une proposition d'initiation dans le programme au mois d'août. Et donc, j'y suis retournée plusieurs fois pendant la période de gestion libre avec des groupes d'une dizaine ou vingtaine de personnes sur des séjours de 3-4 jours pour se mettre au travail sur nos émotions face à l'état du monde et puis des pratiques un peu de connexion à soi, aux autres, au reste du vivant. Et puis du coup, je connais bien le refuge sur les périodes automne-hiver, mais j'ai encore jamais connu le refuge en été. Donc ça sera une première pour moi, le format gardiennage comme ça. Et j'ai hâte de découvrir ça et puis de pouvoir aussi moi contribuer à faire découvrir ce refuge aux personnes qui passent.
Et c'est pour ça que tu t'es occupée de la programmation des animations estivales.
Voilà, exactement.
Et tu t'en es occupée... Est-ce que toi, Ben, tu as participé aussi à cette programmation-là ?
Alors, en ce qui concerne la programmation que propose Aurélie, pas du tout, parce qu'elle est pleine de ressources. Et en fait, chaque année, on propose aux gardiens, si ça les intéresse, pendant leur semaine ou leur semaine ou leurs 2 semaines de gardiennage, de proposer des animations. C'est vrai qu'en général, il y a une ou deux animations qui sont proposées, mais autant que ce que va proposer Aurélie, c'est vrai que ça n'était jamais arrivé. Alors on s'est un peu questionné parce qu'on est très vigilant à la sensibilisation sur la fragilité des lieux de montagne. Et si on a été partant pour cette programmation, c'est d'une part parce qu'on connaît maintenant bien Aurélie, et on sait que justement elle va être vigilante à sensibiliser, je dirais quel que soit le sujet, mais aussi pendant ces 2 semaines de gardiennage, sensibiliser les passants sur la fragilité du lieu, mais aussi sa richesse. Donc c'est ce qui nous a convaincus de lui donner carte blanche. En sachant aussi qu'on l'a vu animer ses propres stages, parce que garder le refuge, c'est un gros travail. C'est pas de tout repos, parce qu'il faut accueillir les gens qui viennent passer un séjour, mais aussi accueillir tous les passants qui viennent boire un verre, manger des crêpes, enfin voilà. Et puis, à tous ces passants, il faut leur expliquer aussi ce que c'est que le lieu. On n'est pas juste un lieu de consommation. Et on ne veut surtout pas être juste un lieu de consommation de la montagne. Donc, c'est parce qu'aussi on a vu Aurélie, comment elle animait ses stages et comment ça se passait, et qu'on lui fait toute confiance pour pouvoir assurer aussi bien l'accueil et toutes les tâches qui vont avec, mais cette sensibilisation à la fragilité de l'endroit.
Bah oui, étant donné les stages que tu proposes, bon, tu sembles être un candidat idéal pour ce genre de programmation.
Bah moi, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup dans ce qui est possible de vivre là-haut, à la fois en termes de liens humains, de convivialité, et puis toute l'histoire humaine aussi qui s'est passée sur ce refuge avec le collectif qui a souhaité préserver ce lieu, qui s'est réuni 550 personnes il y a des années. C'est quand même assez incroyable.
Ah oui, c'est incroyable, oui.
Et puis de nature aussi sauvage. Enfin, moi, je ne me lasse pas de ce lieu, de la vue depuis la terrasse du refuge et puis de toutes les autres espèces non humaines qui y habitent. Donc pour moi, c'est vraiment un espace de régénération et de connexion à la fois aux humains et à la fois au reste du vivant qui, moi, me fait beaucoup de bien et que j'ai plaisir à partager aussi sous différents formats, y compris cet été, quoi.
Et bah... Peut-être qu'on peut passer en revue un petit peu cette programmation, cette riche programmation quasi quotidienne, voire même des fois j'ai vu deux animations sur une seule journée. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça commence le 4 août.
Ouais, on pourrait le prendre par ordre chronologique, mais peut-être commencer à mettre le projecteur sur des animations, peut-être qui vont ressortir un peu plus. Notamment, il y a une projection par semaine. Donc la première semaine, c'est la projection d'un documentaire qui retrace la traversée des Pyrénées avec un âne. Le documentaire s'appelle « Sur les pas de Jones ». Et autour de la projection de ce documentaire, il sera possible de monter au refuge dans l'après-midi et d'y redescendre le lendemain matin, accompagné par un âne avec l'association Passe-Montagne de Sébastien Vernier, qui est aussi à Glandage et qui sera présent pour la projection du documentaire. Donc, lorsque ce documentaire sera projeté, il y aura Adrien, qui est le réalisateur et l'éco-aventurier qui a fait cette traversée des Pyrénées avec un âne, et Seb, qui est âne à Glandage, qui sera là aussi pour nous partager son expérience.
Et Seb est aussi membre du collectif d'animation.
Ah oui, ah ok. Ah bah oui, mais c'est ce que tu disais quand tu disais que les gardiens s'occupent un peu des animations également. Hein. Donc c'est circuit court.
Voilà.
Et en termes de ressources locales, la projection documentaire de la deuxième semaine, elle s'appelle « Vercors sauvage » et c'est un documentaire qui a été réalisé par un naturaliste spécialiste du Vercors qui s'appelle Romain Ribeiro et donc qui a réalisé ce documentaire en assemblant plein de captures vidéo de ces pièges qu'il a planqués un petit peu partout dans le Vercors et donc qui sera aussi présent pour la projection de ce documentaire « Vercors sauvage » et le lendemain matin, ça sera possible d'aller faire une sortie piste et traces avec Romain pour voilà, il va nous raconter, il est vraiment passionné. Moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs sorties avec lui dans le Vercors, notamment une sortie Brame du Cerf et puis une autre sortie où on avait observé des cacas de loups vers Vassieux par là-bas et il est vraiment passionnant et du coup, on aura la chance de passer la soirée et le lendemain matin avec lui pour les personnes qui ont la chance de s'inscrire à temps parce que la jauge pour cet atelier est limitée.
Oui, ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. J'imagine que ça nécessite une inscription, peut-être, pour garantir une place.
Ouais.
Donc, on voit que sur ces deux soirées de projection, le 5 août et le 12 août, qui sont à 20h, elles sont accompagnées, en général, d'une sortie. Ce qui est quand même assez intelligent pour continuer à exploiter les informations qu'on aura pu colporter lors de ces visionnages. Les deux projections auront lieu donc au refuge même ?
Oui, dans la salle du bas, qui est une salle dortoir, une grande salle où il y a déjà eu des projections par le passé, il me semble, notamment le documentaire Cabane Libre, je crois, qui avait été projeté.
Oui, on a eu une avant-première de la projection Cabane Libre. Sur l'association Tous à Poil qui rénove les refuges.
D'accord.
Magnifique.
Bah, oui, je m'en doute. Ok, donc là, c'est les deux soirées projection.
Voilà, et donc là, c'est des personnes de l'extérieur qui viennent pour ces projections de documentaires et les animations qui vont avec. Et toutes les autres animations, c'est proposé en fait par les équipes de gardiens-gardiennes. Donc on est quatre à chaque fois à la semaine. Donc c'est Maëlle qui va ouvrir le bal le 4 août avec une poésieste ou une sieste poétique. Donc la possibilité de venir s'allonger, écouter de la poésie sur fond sonore, voire dire soi-même de la poésie si on a envie de prendre la parole. Donc un moment d'atterrissage potentiellement après une journée de marche pour atterrir en douceur. Donc ça sera le 4 août à 17h. Et le 6 août, c'est Céline, donc qui sera aussi gardienne cette semaine-là, qui nous propose à 17h aussi une marche du temps profond. Et donc la marche du temps profond, c'est une marche de 4,3 km où chaque kilomètre représente 1 milliard d'années d'histoire de la Terre. Et donc en fait, on marche et Céline va nous accompagner et nous raconter au fur et à mesure de nos pas qui représentent le temps qui s'écoule, les grandes étapes de l'histoire de la Terre et du vivant.
Parce que Céline connais bien ce sujet-là.
Oui, Céline, elle est ingénieure pédagogique et spécialisée sur les sujets environnement. Donc, elle anime cette marche du temps profond depuis un moment. Et donc, elle va nous faire le cadeau de nous offrir ça là-haut.
Et lorsque c'est une marche comme celle que va effectuer Céline, on imagine un départ du refuge.
Oui.
C'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Ça sera un départ du refuge, un itinéraire de 4,3 km qui nous comptera l'histoire de la Terre et puis retour au refuge avec la possibilité ensuite de redescendre ou de rester dîner, voire dormir avec nous si dans la limite des places disponibles.
Et ça continue le lendemain.
Et ça continue le lendemain, c'est moi qui prends la suite avec un atelier d'écologie sensible, donc une initiation à des pratiques de connexion au vivant, donc beaucoup par le jeu et par les sens, comme une autre manière de jouer le jeu de la relation qui peut inviter à aussi plus d'empathie et de respect pour le vivant qui nous entoure. Donc ça, c'est ce que moi, j'anime professionnellement sur des séjours qui peuvent durer plusieurs jours et que j'aime beaucoup animer là-haut au refuge et que là, je propose en format de 3 heures, quoi, la matinée, une demi-journée.
D'accord. Et ça, c'est... Tu parlais de l'importance du jeu, en fait, dans cette pratique-là. Donc, il y a un côté ludique avéré. Il y a d'autres disciplines également que tu amènes dans ces stages pour... C'est de la sensibilisation à l'écologie ou c'est pas le bon terme, la sensibilisation à l'écologie ?
Pour moi, quand je parle d'écologie sensible, en fait, moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur en environnement. Donc, j'ai étudié beaucoup les maths, la physique, et je me suis spécialisée en écologie, mais du coup, avec une approche très scientifique et intellectuelle. Et pour moi, l'écologie sensible, c'est une approche... qui vient plus du cœur que de la tête et de prendre conscience que par rapport au sujet de dérèglement climatique ou d'effondrement de la biodiversité, c'est pas ben, je comprends physiquement ce que c'est que le dérèglement climatique et que du coup il faut limiter à moins de 2 degrés, etc., avec une approche très rationnelle. Mais en fait, je prends conscience par mon corps et par mon cœur que je fais partie de ce vivant-là qui souffre et c'est pas. Moi qui défends le vivant, c'est le vivant qui se défend à travers moi. Enfin, quelque chose qui vient connecter assez en profondeur à notre sensibilité et par un enchaînement de différentes pratiques qui peuvent être des temps seuls dans la nature où on va inviter les personnes à passer juste 30 minutes et juste posez-vous quelque part et observez, ouvrez grand vos sens. On a aussi des jeux qui invitent, qui aident à ouvrir grand ses oreilles ou à ouvrir grand ses narines ou à ouvrir grand ses yeux. Enfin, voilà, on joue aussi beaucoup avec les sens pour avoir une approche aussi du vivant qui est un peu moins dans la consommation que ce qu'on peut avoir tendance à faire quand on fait une randonnée. Il faut faire tant de kilomètres et retour à la case départ. Et là, il y a une approche un peu plus... contemplative et dans la qualité de présence et la relation authentique avec les non-humains qui nous entourent.
Donc c'est une initiation à l'écologie sensible.
C'est ça, le 7 août à 9h, la matinée, et le lendemain sur un registre un peu plus sportif. Moi je suis très proche de la communauté d'acro-yoga de Cré. L'association s'appelle les Dromadaires. C'est une très chouette association. Et mon amoureux Rémi est un super prof d'acro-yoga. Il va venir me rendre visite au refuge et du coup proposer deux initiations à l'acro-yoga là-haut même, à 9h le 8 août et à 17h le 9 août. Et donc l'acro-yoga, qu'est-ce que c'est ? C'est des portées acrobatiques. C'est aussi beaucoup dans le jeu, c'est assez fun en général une séance d'acro-yoga. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement souple ou particulièrement acrobate pour y participer. On commence avec des choses très simples. En général, les personnes voient la démonstration, se disent « je ne vais jamais être capable de le faire ». Et en fait, avec quelques bons conseils, finalement réalisent que c'est hyper accessible et se retrouvent très, très fiers d'elles. C'est aussi très empouvoirant comme
valorisant.
Pratique. Valorisant de réaliser qu'on est capable de faire ça. C'est très rigolo. Et voilà, deux occasions de venir pratiquer. S'il y a des personnes qui ont déjà pratiqué, ben, on a aussi plein de ressources pour amener un petit peu plus de niveau et s'adapter aux débutants comme aux intermédiaires, voire aux expérimentés. S'il y a des personnes expérimentées qui veulent venir jouer avec nous ces jours-là, là-haut.
Les enfants peuvent venir aussi à ces initiations ?
Oui, ça peut être très rigolo avec des enfants aussi.
Donc ça, on le rappelle, c'est le 8 août à 9h du matin et le 9 août à 17h.
Exact.
Et c'est des séances de...
De 2-3
heures. 2-3
heures. Oui. En général, au bout de 2 heures, les personnes peuvent commencer à être un peu fatiguées. On s'adaptera au niveau d'énergie.
Et ça nous emmène au 10 août.
Au 10 août. Donc là, ça sera la deuxième semaine de gardiennage. Donc l'équipe va changer. Et donc, on a des propositions par... Séverine, qui sera gardienne avec moi la deuxième semaine d'août et qui anime la fresque du climat, qui est un atelier pour comprendre justement le fonctionnement du dérèglement climatique, quels sont les liens, causes, conséquences de tout début jusqu'à la toute fin, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contribuer à limiter ça, à préserver l'habitabilité de notre planète. Donc c'est un atelier qui se fait sur une grande table avec des cartes, avec un groupe de 4 à 8 personnes. Et Séverine qui sera en animation, ça va durer aussi 2-3 heures. Et donc ça sera le 10 août à 16 heures.
Mais petite question par rapport à cet atelier. Il y a donc une pratique d'art plastique qui, comme ça s'intitule Fresque du climat, oui. Ça m'évoque un peu ça.
C'est une bonne question, tout à fait. Donc en fait, c'est un atelier qui se déroule avec plusieurs séquences. Et la première séquence, c'est on a les cartes et on réfléchit, on fait marcher l'intelligence collective. On réfléchit entre nous à comment positionner les cartes les unes par rapport aux autres pour retrouver les liens de causalité. Ceci entraîne cela, qui entraîne cela, etc. Et ensuite, une fois qu'on a bien positionné toutes les cartes les unes par rapport aux autres, ben, y a une phase un peu créative où là, effectivement, on peut faire des dessins, mettre de la couleur, trouver un titre, s'approprier un petit peu la fresque pour en faire effectivement une œuvre d'art.
Ça, c'est le 10 août à 16h, l'atelier ludique en vue de créer une œuvre d'art, la fresque du climat.
Exactement. Et le lendemain, c'est Bernard qui sera aussi gardien cette semaine-là, qui prend la suite avec une proposition en toute humilité. Bernard, il insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas un cours d'aquarelle, mais lui, il aime beaucoup faire de l'aquarelle. Il amènera son matériel et puis de quoi se faire des petits carnets. En fait, je l'ai vu ce matin, Bernard, et il m'a montré le petit carnet qu'il prévoyait de confectionner avec les personnes qui souhaitent participer à l'atelier ce jour-là. Et il m'a montré quelques fleurs qu'il avait peintes à l'aquarelle. Et moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et j'aimerais beaucoup participer à cet atelier si la charge de travail le permet. Et du coup, l'idée, ça sera de se poser probablement sur la terrasse du refuge et de partager un moment avec cette peinture à l'eau. Et alors, on verra si c'est ça qu'il veut proposer finalement. Mais ce matin, il me parlait de mélanger un petit peu d'aquarelle avec de l'écriture de haïku. Des petits poèmes japonais en trois vers.
Pour participer à cet atelier, à ce temps créatif partagé du 11 août, est-ce qu'il faut qu'on amène son propre matériel de peinture ou si on n'en a pas, il y a peut-être une solution ?
Oui, si les personnes ont leur matériel aquarelle, pinceau, évidemment, et que ça pèse pas trop lourd en plus en général dans les sacs à dos, évidemment, c'est bienvenu de les amener, mais sinon on aura du matériel aussi à prêter. Et ça me permet de faire la transition sur la dernière animation qui est le 14 août à 17h, initiation à la nuit en hamac. Pareil, s'il y a des personnes qui ont leur hamac, ils peuvent l'apporter et sinon nous on s'organisera pour en avoir aussi quelques-uns à prêter. Et donc dans l'équipe, il y a Bernard et il y a Kitoun qui tous les deux aiment beaucoup dormir en hamac. Ils ont réalisé qu'ils avaient ce point commun quand on a fait un petit échange préparatoire à notre semaine de gardiennage. Et du coup, moi par exemple, je dors très souvent en bivouac en tente, mais j'ai jamais dormi en hamac. Et en fait, il y a plein d'astuces de déjà comment trouver les bons arbres, comment faire les bons nœuds, c'est quoi les astuces de matériel pour bien dormir. D'ailleurs, je crois que Kitoun et Bernard n'ont pas exactement les mêmes techniques, parce que je crois que Kitoun personne, elle met un matelas au fond de son hamac et Bernard n'en met pas. Donc ça permettra aussi de croiser les retours d'expérience et proposer différentes méthodes. Et voilà, si la météo le permet, et ben on passera la nuit dehors et si jamais on a un contretemps, il sera a priori toujours possible de venir se mettre à l'abri au refuge. Mais l'idée, c'est cette nuit-là pour les personnes qui le souhaitent pour une première fois ou juste pour des habitués, pour le plaisir de cette pratique-là, venir dormir suspendu entre deux arbres.
Bon, on espère qu'il n'y aura pas de contretemps, j'en suis quasiment convaincu. Et puis surtout que cette nuit, il y a de fortes chances qu'on observe de belles étoiles filantes.
C'est effectivement la période où les étoiles filantes sont particulièrement actives. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'aller passer du temps là-haut à cette période-là et de passer des heures à regarder le ciel étoilé.
Donc ça sera à 17h, ça.
À 17h, le 14 août. Et ça clôturera.
Et ça clôturera cette saison d'animation au refuge de la Tour de Borne. On rappelle que toutes ces animations sont à prix libre.
Exactement, pour que ça reste accessible à quiconque a envie d'y participer, que l'argent ne soit pas un obstacle à vivre ces choses chouettes.
C'est-à-dire qu'à l'issue de l'atelier, de la nuit en hamac ou de la projection, il y a une petite caisse et chacun met ce qu'il souhaite.
Exactement, ce qu'il souhaite et ce qu'il peut donner selon ses possibilités.
Et ça nécessite une inscription.
Oui, c'est ça. Et du coup, l'inscription, c'est avec moi. Donc, il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit sur le site internet de la Tour de Borne.
D'accord.
Que je peux aussi redonner là, s'il y a besoin. Et donc, m'envoyer un petit SMS et me dire « je souhaite m'inscrire à tel atelier, tel jour ». Et comme ça, moi, si c'est tout bon, s'il reste de la place, je note l'inscription. Si jamais on a déjà atteint la jauge maximale, je tiendrai informée. Et puis, je m'assurerai que les personnes aussi qui souhaitent dormir au refuge ensuite, ce soit bien... Et bien réservé en parallèle sur le site de l'association de la Tour de Borne qui est gérée par une autre personne. Moi, je gère uniquement les inscriptions aux ateliers, mais les inscriptions pour les nuitées et les repas sont gérées par ailleurs depuis le site de la Tour de Borne.
Il y a deux sites ?
Il n'y a qu'un seul site de la Tour de Borne. Mais par contre, pour réserver des nuitées,
oui.
c'est pas le même numéro.
Ah oui,
que
bien
celui
sûr.
D'Aurélie. Parce qu'Aurélie ne va gérer que les réservations pour les animations qu'elle propose. Mais pour réserver n'importe quand au refuge de la Tour de Borne, il y a une adresse mail de préférence qui est resarefugelatour@gmail.com, qui est indiquée sur notre site. J'en profite aussi pour dire que quand il n'y a pas de réseau à la Tour, ou enfin il y a un réseau mais qui n'est pas très très accessible, donc si vous appelez Aurélie, ne vous étonnez pas qu'elle ne vous réponde pas. Il vaut mieux lui mettre un SMS, d'autant qu'elle sera très occupée, puisqu'elle aura, en plus de prendre des réservations, la nécessité
d'accueillir.
Le SMS pour la Tour, c'est quand même préférable. Petite question pratique. Je voudrais revenir sur un point aussi pour insister sur les personnes qui interviennent à la Tour. Et en particulier, là, c'est ce qui me vient dans la discussion en écoutant Aurélie présenter ses animations. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont plein de talents et plein de capacités et plein d'inventivité. Parce que, par exemple, Bernard, qui va faire l'atelier d'aquarelle, eh bien, Bernard, il vient de nous finir notre salle de bain qui n'était pas carrelée depuis des années. Et c'est Bernard qui est monté pour finir le carrelage de la salle de bain. Donc, je trouve que c'est aussi chouette de rencontrer ces personnes qui sont un petit peu, qui ont eu vraiment des antennes ouvertes de partout et qui ont une curiosité qui fait qu'ils savent faire des tas de choses.
Il paraît même que Bernard fait des délicieuses tartes au citron meringuées.
Alors ça, c'est...
Ça, c'est des arguments de bois.
À vérifier.
Le site de la Tour de Borne, est-ce qu'on peut le communiquer aussi ? Parce que c'est sur ce site qu'on trouvera ton numéro, Aurélie, et qu'on pourra éventuellement réserver les nuitées.
Voilà. Donc c'est latourdeborne.org et on trouve absolument tous les renseignements sur comment réserver les animations... Les adresses mail, les numéros de téléphone. Et il y a même un tableau pour les réservations, pour voir s'il reste de la place.
Super.
Donc, une fois qu'on voit qu'il reste de la place, pour le jour où on veut y aller, après on envoie un mail, il y a un lien direct pour envoyer un mail.
latourdeborne.org, tout attaché en minuscules, naturellement.
Tout simple.
On a détaillé les animations au refuge de la Tour de Borne qui auront lieu entre le 4 et le 14 août. Mais il y a un petit point supplémentaire, Ben, que tu m'as communiqué au moment où tu es arrivé, c'est qu'il y avait aussi un événement au mois de juillet.
Alors, au mois de juillet, c'est d'ailleurs pour l'ouverture de la saison, puisque ça va se tenir le 4 août. Le 4 juillet, pardon. Le 4 juillet à 18h, on a la chance d'avoir la première d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le sens de la pente, qui est une pièce de théâtre qui va évoquer le pastoralisme, puisque c'est l'année du pastoralisme. Cette troupe de théâtre, qui est composée d'amateurs et de professionnels, sera le 1er et le 2 juillet en résidence à Borne et le 3 et 4 en résidence au refuge. Et ensuite, ils nous présenteront leur pièce de théâtre, la première.
Ouais, en avant-première même.
Ouais, en avant-première. Et je crois que ça sera vraiment très chouette. Il y a une présentation de cette pièce sur le site, là encore. Hein. Donc, je vous invite à aller voir cette présentation. Et comme c'est à 18h, à la suite de la pièce de théâtre, on proposera une petite soupe. Donc, c'est bien, là aussi, de réserver pour avoir une assiette de soupe.
Sur le fameux site.
Sur ce fameux site, toujours. Et puis aussi, il faut dire que peut-être au cours de l'été, des gardiens auront une inspiration de dernière minute pour proposer une animation. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir le site pour voir s'il y a quelque chose qui se présente au dernier moment. Par exemple, une nuit des étoiles ou une soirée musicale ou un film. Parce que l'an dernier, par exemple, le film Cabane libre, ça s'est fait un petit peu au dernier moment.
Ah, donc il y a une porte ouverte à la spontanéité, à l'improvisation.
Voilà, tout à fait. Donc c'est bien d'aller voir le site parce que parfois il y a des choses qui arrivent un peu sans être prévues.
Entendu. Aurélie et Ben, je vous remercie d'être venus au micro de RDIWA pour nous parler des animations estivales qui auront lieu au refuge de la Tour de Borne.
Merci pour l'écoute.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Mon grand-père disait
« L'homme a un drôle d'animal qui court après le temps. »
J'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques mois, j'ai randonné avec un bipède qui se demandait aussi, à force de vouloir toujours aller plus vite, est-ce que l'homme ne se déconnecterait pas du moment présent et du vivant ?